Le journal présenté par Thomas Larabi.
Bonjour à tous. Regain de mobilisation hier pour l'acte 9 des Gilets jaunes avec un net recul des violences du fait des services d'ordre mis en place par les Gilets jaunes eux-mêmes. Reportage dans ce journal. Lourd bilan après l'explosion d'une boulangerie hier matin dans le 9e arrondissement de Paris. 3 morts, 2 pompiers et une touriste espagnole ainsi qu'une cinquantaine de blessés. 12 immeubles sont encore inaccessibles. Aux États-Unis, Donald Trump pique encore sa crise contre la presse dans son viseur cette fois le New York Times. Nous irons à Washington recueillir les explications de Grégory Phillips. Hier, c'est C'était le Yenayer, le jour du nouvel an berbère. En Algérie, c'est un jour férié depuis l'an dernier seulement. On vous raconte pourquoi à la fin de ce journal. Et on l'a appris il y a quelques minutes, l'ex-militant d'extrême gauche italien Cesare Battisti, qui était en cavale depuis décembre, a été capturé en Bolivie. L'ancien militant d'un groupe classé comme terroriste par la justice italienne, condamné pour homicide, a vécu exilé au Brésil depuis 2004, après avoir passé près de 15 ans en France. Explication de Thibaut Cavaillès.
La nouvelle fuite de Cesare Battisti n'aura pas duré longtemps. Arrêté cette nuit en Bolivie, un mois seulement après que le Brésil ait signé la demande d'extradition émise par l'Italie, et 12 jours après l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro. Les réactions n'ont pas tardé. Le Brésil n'est plus une terre de bandits, a écrit sur Twitter le député et fils du président brésilien Eduardo Bolsonaro, Matteo Salvini. Le petit cadeau va arriver. Un message adressé au ministre de l'Intérieur italien. Dans les années 70, Battisti milite au sein d'un groupe d'extrême gauche classé terroriste par la justice italienne. Emprisonné en 79, il parvient à s'enfuir. Au Mexique d'abord, puis en France où il devient gardien d'immeubles et auteur de romans reconnus. Pendant ce temps, l'Italie le condamne plusieurs fois par contumace à de la perpétuité, notamment pour homicide. Au début, Battisti dit assumer son passé politique, puis commence à clamer son innocence quand en 2004, la France accepte la demande d'extradition italienne. Il fuit alors au Brésil, puis en Bolivie, jusqu'à cette nuit. Battisti est détenu. La démocratie est plus forte que le terrorisme, a clamé sur Twitter l'ambassadeur d'Italie au Brésil.
Le récit de Thibaut Cavaillès. Je vous le disais en titre, sursaut de la mobilisation pour l'acte 9 des Gilets jaunes hier. Au moins 92 000 personnes ont manifesté dans toute la France, selon France Info, près du double de la semaine passée. Et contrairement à ce qu'avait prédit le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, il y a eu moins de violence, avec une vingtaine de blessés, 200 personnes placées en garde à vue. En partie parce que les Gilets jaunes se sont organisés avec un service d'ordre et des équipes médicales, les street medics. Elodie Rabel est allée à leur rencontre.
Il va y avoir des blessés. Là, ça va. Le monsieur, il lance des pavés. C'est juste pas le moment.
Leur réaction est immédiate. À la vue d'un manifestant prêt à lancer un bloc de pierre sur les CRS, Rémi et ses compagnons street medics et membres du service d'ordre des Gilets jaunes empêchent autant que faire se peut les violences et avec elles les blessés.
Il vient de le faire sous les yeux des CRS. Ça aurait pas été trop qu'il y ait des baqueux qui sortent pour le chercher.
Objectif, ne pas s'attirer la répression des forces de l'ordre, dont l'attitude suscite inquiétude et défiance parmi les manifestants présents à ce rassemblement beaucoup plus calme que les actes précédents.
Les manifestations étant déclarées à présent, ce qui était le grand reproche qui était fait au début, là ça se passe quand même beaucoup mieux. Jusqu'ici on a vu des gens avec des brassards blancs pour faire du service d'ordre, pour structurer un petit peu les mouvements de foule. Après là, ce que je crains, c'est plus la stratégie des forces de l'ordre, parce que j'ai un peu du mal à voir comment ils vont dispatcher ça. Ils sont disposés d'une façon très différente de d'habitude, donc ça Castaner l'avait dit. Et je sais pas trop comment ils vont évacuer la zone.
Des manifestations déclarées en préfecture qui s'accompagnent d'un gonflement significatif des services d'ordre dans les rangs des Gilets jaunes. 20% selon Karim, brassard blanc en évidence. Il s'est coordonné en amont sur WhatsApp avec les organisateurs des cortèges.
Ce qui s'est décidé, c'est en AG, c'est en Assemblée Générale, pour pouvoir justement dire que nous ne faisons pas de casse, nous sommes citoyens. Pour dire que justement que les Gilets jaunes, ce ne sont pas que des casseurs. Alors il y a une vraie volonté d'organisation du peuple, parce que les Gilets jaunes, ça restera le peuple. Moi je suis père de famille, j'ai 40 ans, j'ai 3 enfants, et je suis là justement pour éviter qu'on fasse l'amalgame entre le casseur et le révolutionnaire.
Une distinction qui sonne comme une réponse des Gilets jaunes au gouvernement, après avoir été qualifié de complice des violences par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et d'agitateur selon le porte-parole Benjamin Grévaux.
Un reportage d'Élodie Rabel. Alors que la trêve au Yémen est toujours fragile, 16 organisations humanitaires et de défense des droits humains ont adressé une lettre aux députés français. Cette lettre invite les parlementaires à arrêter dans les faits la vente d'armes par la France à l'Arabie Saoudite. Depuis 2015, le conflit au Yémen a fait 10 000 morts selon l'ONU, 80 000 selon plusieurs organisations humanitaires. Aux États-Unis, les relations entre Donald Trump et la presse ne s'arrangent pas. Dans le viseur du président cette fois, le New York Times. Le quotidien affirme que le FBI a ouvert une enquête à l'encontre du président pour déterminer s'il travaillait pour les Russes. Une investigation ouverte il y a un an et demi, peu de temps après que Donald Trump ait limogé le patron du FBI, James Comey. À Washington, Grégory Phillips.
Dans une salve de tweets dont il a le secret, Donald Trump s'en prend au défaillant New York Times, aux anciens dirigeants corrompus du FBI et en particulier à James Comey, l'ex-directeur qu'il a limogé au printemps 2017 et qu'il qualifie aujourd'hui de menteur, de flic véreux et de véritable ordure. Pourquoi une telle fureur du président ? Parce que le quotidien révèle que dès la campagne de 2016, le FBI a des doutes sur des liens éventuels du candidat Trump avec la Russie et qu'en mai 2017, alors que le président vient de limoger brutalement le patron du bureau fédéral, le FBI ouvre deux enquêtes. La première criminelle, pour déterminer si ce licenciement est oui ou non une tentative d'obstruction à la justice. Ce volet était connu. Ce qui est nouveau, c'est le fait que le FBI a aussi ouvert une enquête en contre-espionnage pour savoir si le président a travaillé ou non pour Moscou de manière consciente ou inconsciente. Le New York Times ne donne pas le résultat de ces investigations et ne précise pas si elles sont toujours en cours. Trump hurle à la chasse aux sorcières, tandis que les résultats d'une autre enquête menée cette fois par le procureur Mueller se font toujours attendre.
Le récit de notre correspondant à Washington, Grégory Phillips. On retourne au Brésil où l'état du Ceará au nord-est du pays connaît depuis 11 jours une situation insurrectionnelle provoquée par plusieurs groupes criminels. Selon la police, ces groupes sont à l'origine de plus de 200 attaques contre des bâtiments publics suite à la décision du gouvernement local de vouloir durcir les règles en prison. Les explications d'Anne Vigna à Rio.
Au moins trois des principaux groupes criminels brésiliens se sont unis pour tenter de s'opposer aux nouvelles règles que le gouvernement de l'État du Ceará voudrait imposer aux prisonniers. Notamment une norme qui existe dans tout le Brésil et qui consiste à séparer les prisonniers selon leur appartenance à telle ou telle faction criminelle. Cette règle non écrite permet d'éviter des affrontements en prison. En voulant la changer, le gouvernement local a provoqué une onde de terreur qui dure depuis 11 jours maintenant. Malgré les renforts militaires envoyés depuis Brasilia, les criminels ont détruit des tours de transmission électrique, fait exploser des ponts et brûler de très nombreux autobus, paralysant plusieurs villes, dont la capitale de l'État, Fortaleza. Le président Jair Bolsonaro a déclaré sur Twitter vouloir désormais qualifier de terroristes les auteurs des crimes contre le patrimoine public. Cette déclaration du président intervient alors que la police a confirmé que de nombreux jeunes étaient enrôlés de force dans ces attaques sous peine de représailles contre leurs familles. Selon un nouveau bilan de la police, 330 personnes ont été arrêtées et plusieurs tonnes d'explosifs confisquées. Ce n'est pas la première fois que les groupes criminels attaquent ainsi l'État. En 2006, le groupe criminel le PCC, le plus important groupe criminel d'Amérique latine, avait aussi détonné une série d'attaques dans l'État de São Paulo. Les affrontements avec la police avaient alors provoqué 300 morts, toujours pour s'opposer à des nouvelles règles en prison.
Notre correspondante à Rio, Anne Vigna. Ce 13 janvier est le premier jour de l'année pour les Berbères. 20 000 personnes se sont rassemblées hier à Bercy pour un réveillon concert quasi complet. En Algérie, le Yenayer 2969, le Nouvel An berbère, est une fête nationale et un jour férié depuis 2017 seulement. Une reconnaissance de la culture berbère de l'Algérie dans un pays où elle a longtemps été réprimée. À Alger, les explications de Leïla Berato.
Pour la deuxième année consécutive, Yenayer est un jour férié. Cette fête, à la fois Nouvel An berbère et Nouvelle Année du calendrier agraire, est désormais officielle dans une Algérie qui a historiquement mis en avant son identité arabe. Dans les années 80 puis dans les années 2000, les militants berbères ont revendiqué la reconnaissance de leur culture. Le tournant est arrivé en 2016, lorsque la nouvelle constitution consacre le tamazirt, la langue berbère, comme langue officielle. Des panneaux routiers et des frontons de bâtiments administratifs se voient ajouter la traduction en alphabétie finard. En 2017, les autorités font un deuxième pas. Yenayer devient un jour férié, mais surtout, l'enseignement de la langue berbère doit se généraliser dans les écoles. Enfin, une académie de la langue ouvre avec une mission, moderniser et unifier une langue qui est parlée par 30% des habitants, avec des variantes, des montagnes du Nord jusqu'au Sahara.
Leïla Berato de RFI pour France Culture. Côté météo, ciel chargé sur la majeure partie du pays, à l'exception du quart sud-est et de la Corse. De la pluie de l'Alsace à la Gironde, en passant par la région centre et même quelques flocons en Haute-Savoie. Les températures sont plutôt douces, 9 à Cherbourg, 10 à La Rochelle, 11 à Paris et Brest, 7 à Lyon et 13 à Nice et Ajaccio.